consonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
En ce mois d'août 2017, que vous soyez dans votre jardin, allongé sur votre transat ou sur votre balcon à l'abri de votre parasol, ou alors encore en train de préparer le repas à côté de votre barbecue, Dissonance vous invite à réécouter des extraits des reportages diffusés cette année.
Au programme,
les propos de Fred Maurice, auteur d'Un hiver de chien, un livre qui nous plonge dans les prémices de la Commune de Paris, un hiver 1870, quand les Prussiens étaient aux portes de Paris.
Le retour, avec Laurent Garraud, sur l'accueil durant 3 mois en Aveyron, de jeunes migrants.
La rencontre avec Dany, Jacques et Michel, qui ont choisi de se prononcer sur l'élection présidentielle de mai 2017, en refusant d'aller voter.
Le témoignage de Nouria, jeune volontaire européenne, qui nous fait partager son désir d'une vie sans frontières.
Les mots de Jean Pouget, jeune homme de 91 ans, au parcours de vie passionnant et passionné, clôtureront ce retour sur les émissions de Dissonance, saison 2.
Les rubriques politiques d'Elsa Dauphin côtoieront ses parcours de vie en évoquant la romancière turque Asli Erdogan ainsi que l'acte de voter.
Les meilleurs moments de Dissonance
sur Radio Centrafrique.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir, rendant plus facile, la commune est en lutte, et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernier culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les falais des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous frisant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Fred Maurice est l'auteur d'Un hiver de chien. Avec ce magnifique roman, il nous fait revivre la vie des Parisiennes et des Parisiens pendant l'hiver de 1870. Dissonance.
Fred Maurice.
Sur Radio Saint-Afrique.
Je connaissais Fred Maurice à travers tes écrits, notamment les écrits pour enfants de littérature jeunesse, Le Val Enchanté, qui est sorti chez Champ d'Ortie en 2013, Les Disparus de la Cité Fleurie, chez Champ d'Ortie en 2014, ouais. Ceux d'en face, qui a été auto-édité en 2016. J'ai découvert aussi les premiers bouquins que tu avais écrits, notamment en 2005, chez l'Insomniaque, Zut, Petite Histoire des Grands Ensembles, sur la banlieue. 2009, La Semaine d'un Lézard sur Pôle emploi, on va dire, la NPE, le chômage, etc., sur cette vision que tu avais sur le travail. En 2010, un bouquin, La Malédiction du Béton, des nouvelles, pareil, sur les banlieues. Mais alors, ce bouquin-là, Un hiver de chien, ça dénote complètement. On ne parle pas de banlieue, c'est pas un bouquin de littérature jeunesse.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Mais ça pourrait être un roman jeunesse, parce que je pense qu'il peut être lu par à peu près tout le monde. Alors, plutôt des ados, bien que ce soit un gros livre. Mais moi, j'ai toujours été passionné d'histoire. J'ai toujours beaucoup aimé Paris, les rues de Paris. Et puis, pour moi, on est toujours dans la littérature sociale dont je me revendique. Effectivement, dans mes premiers livres, je m'enseigne des quartiers populaires actuels, donc des cités HLM où j'ai grandi. Et moi, je retrouvais un petit peu le même contexte, les mêmes rapports entre les voisins, etc. Donc, venant d'un milieu populaire, c'est pas trop compliqué pour moi de parler d'un milieu populaire, même si c'était il y a un siècle et demi. Donc, voilà, après, et puis, on a envie de se renouveler un petit peu quand on écrit. Ouais. Même si, en parlant de la banlieue, on peut aborder énormément de thèmes, ce que je fais à travers mes romans jeunesse, où c'est un jeune gamin qui mène des enquêtes non policières, je précise, parce que ce ne sont pas les policiers qui mènent l'enquête, là, mais un gamin de banlieue, et où j'aborde des thèmes sociaux d'actualité assez forts. Donc, pour moi, c'est dans la continuité, puis c'est vrai que, voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir partager des choses que j'ai apprises avec les lecteurs, donc autour de cette période complètement méconnue. Et voilà, donc ça me permet de leur sortir un petit peu de l'ombre.
Le côté enfant, je le retrouve, on retrouve ça dans tes bouquins de littérature jeunesse, mais après, dans tes premiers bouquins, on retrouve ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire ton amour de Paris, la déambulation d'un Paris, dans Paris, la découverte de ces petites ruelles, de ces petites rues chargées d'histoire.
Ouais.
Parce que dans tes bouquins de banlieue, les gamins, à un moment, ils prennent le RER ou le métro pour ne pas aller voir Paris.
Ouais.
Et puis ici, tu nous donnes envie de retourner rue Mouffetard ou dans la rue des Gobelins pour voir comment c'est.
Je conseille à tout le monde de se promener rue Mouffetard, qui est une rue historique, hein, puisque c'était une voie romaine à Paris, qui existe toujours et qui est avec beaucoup de commerçants, une petite rue typique du Paris de l'époque. Et c'est vrai que dans certains de mes premiers livres, moi, en tant que banlieusard de la lointaine banlieue, on prenait plus jeune régulièrement le train, parce qu'on avait envie de se mêler à la vie parisienne. Et effectivement, plusieurs fois, oui, il y a des promenades comme ça dans Paris à travers mes livres. Et puis moi-même, j'ai lu plusieurs auteurs qui étaient des spécialistes de Paris et qui proposaient des promenades littéraires, parce que c'était des amoureux de Paris, donc qui racontaient leur quartier. Voilà, Léon-Paul Fargue, entre autres, Henri Calais. Voilà, c'est des gens que j'ai beaucoup aimé. Et donc moi aussi j'avais ce désir de raconter ma vision des rues de Paris. Puis bon, bah là c'était l'occasion de ne parler que de ça, quoi. Donc
on va en savoir plus avec Un hiver de chien, Paris 1870-1871, de Fred Maurice aux éditions de Perrault. On va en savoir plus sur ce siège de Paris, mais on en sait très très peu sur Fred Maurice. Qui est Fred Maurice?
Je crois que le mieux c'est de lire ses livres pour le connaître. Non, ben voilà, ben moi je suis un auteur, petit auteur j'aime dire, parce que quand on n'est pas connu du grand public, on se considère comme un petit auteur. Et puis j'ai beaucoup d'activités artistiques, on va dire, bien que j'aime pas trop le terme. Mais je suis également illustrateur, j'ai une formation de peintre en décor, je suis peintre aussi, je fais des expositions de temps à autre. Et puis je suis aussi membre d'une maison d'édition que tu connais un petit peu, qui s'appelle Champ d'Ortie. Depuis quelques temps, je fais partie de la petite équipe de Champ d'Ortie, et qui est une maison d'édition qui publie des romans jeunesse, mais qui s'adresse aux enfants un petit peu différemment différent de ce qu'on peut trouver en général dans la littérature jeunesse. Et donc là, on aime bien amener les enfants à réfléchir sur des thèmes assez importants, quoi. Donc voilà. Et puis, bah, grandi en banlieue parisienne, d'où je tire beaucoup mes sources d'inspiration.
D'origine ouvrière aussi.
Oui, voilà. De oui, bah, de famille ouvrière et puis d'un quartier ouvrier, parce que c'est bien de rappeler que les quartiers HLM étaient à la base des quartiers ouvriers qui sont paupérisés depuis 2-3 dizaines d'années maintenant. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi je suis passionné de littérature prolétarienne et que je pense que ce que j'écris ça s'inscrit dans cette ligne, en toute modestie, mais voilà. Donc je pense que c'est important, tout comme les ouvriers de la fin du 19e siècle ou les paysans ont ressenti le besoin d'écrire ce qu'ils vivaient et ne pas laisser des écrivains bourgeois raconter leur vie. Moi, quand je peux voir le traitement médiatique des banlieues, c'est un petit peu aussi ce qui m'a amené à vouloir écrire et raconter de l'intérieur ce que j'ai pu connaître à l'époque, même si ça fait longtemps que j'ai quitté les quartiers, mais j'en suis quand même très imprégné. Et donc pour moi, c'était important aussi, comme on fait ces écrivains à l'époque, de raconter de l'intérieur les quartiers populaires d'aujourd'hui, qui maintenant sont des bars et autres. Enfin, il n'y a pas que ça, mais moi, c'était mon univers. Et donc, c'est un petit peu ce qui a motivé aussi mon... Bon, j'ai toujours écrit, mais de concrétiser, on va dire, mes projets d'écriture. Et je pense que c'est important de témoigner quelque part d'une réalité qui est complètement dévoyée par les médias, quoi.
Et tu fais aussi de magnifiques dessins d'actualité satiriques et humoristiques qu'on peut retrouver sur le site internet de Chronique Hebdo.
Oui, Chronique Hebdo est une émission de Radio Hyperterre qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui reçoit beaucoup de personnalités assez connues ou moins connues, qui est très intéressante. C'est une chronique, enfin, c'est le traitement de l'actualité à travers une vision libertaire. Et comme ce sont des amis qui font cette émission, elles m'ont proposé de faire des dessins d'actualité, mais pareil, un petit peu sous une vision un peu plus libertaire que ce qu'on peut voir ailleurs. Et voilà, donc chaque semaine, j'essaie de faire un dessin de bon, ce qui était une démarche nouvelle pour moi, mais bon, c'est assez distrayant, et puis je crois que ça plaît plutôt bien, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc oui, voilà, ça permet d'avoir une pratique un petit peu différente à travers le dessin ou la peinture. Oui, ça étend un petit peu le champ de pratique.
Un hiver de chien, Paris 1870-1871. Comment et où peut-on se procurer ton livre, Fred ?
Alors, on peut le trouver. Le plus simple, c'est auprès de l'éditeur, Thierry de Perrault.
Édition de Perrault.
Le commander auprès des libraires, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Si vous n'êtes pas à Paris et que vous le commandez en province, c'est un petit peu compliqué. Et on le trouve dans plusieurs librairies parisiennes, surtout du 5e, du 13e, du 11e aussi. Mais le plus simple pour les personnes qui ne sont pas à Paris, c'est plutôt d'aller sur les différents sites de l'éditeur et de commander auprès de l'éditeur. Voilà, mais je crois que le premier tirage n'est pas loin d'être épuisé. Donc,
voilà. On mettra sur la page internet de Dissonance tous les liens pour pouvoir se procurer le livre et puis des informations sur Chant d'Orty et sur tes autres livres.
Oui, volontiers.
Merci beaucoup, Fred Maurice.
Merci à toi.
Merci.
La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
Aujourd'hui, je suis bien embêtée. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter. J'avais dans l'idée de vous parler de la romancière turque Asli Erdogan. Au mois d'août dernier, elle a été arrêtée et emprisonnée pour avoir tenu une rubrique dans un journal pro-kurde. Pour le dictateur Recep Tayyip Erdogan, qui n'a aucun lien de parenté avec elle, soutenir un peuple qu'il s'acharne à éradiquer s'apparente au soutien à une organisation terroriste. J'avais donc l'intention de parler de cette femme écrivain, et puis d'autres noms sont venus que j'avais incidemment convoqués. Ossip Mandelstam, Yanis Ritsos, Nazim Hikmet, Federico Garcia Lorca, Abdelatif Labi, Robert Desnos. Tous poètes, russes, grecs, turcs, espagnols, marocains, français, emprisonnés, torturés, assassinés, pour avoir écrit. Ossip Mandelstam, par exemple, avait composé ce poème sous le règne de Staline. Nous vivons sans sentir sous nos pieds notre sol. On n'entend pas nos paroles à 10 pas. On n'entend que le montagnard du Kremlin, l'assassin et le mangeur d'hommes. Il fut jugé pour ses mots. Il est mort en déportation, en Sibérie, en 1938. Bon, je n'étais pas plus avancée pour continuer cette chronique. J'éprouvais même une sorte de lassitude, sans doute due à la répétition, au bégaiement de l'histoire. Alors quoi, Asli Erdogan tout de même ? Je n'ai rien lu d'elle, et avant son emprisonnement, je n'en avais jamais entendu parler. Après 136 jours d'incarcération, son procès a eu lieu. Suite à la mobilisation de la communauté internationale des écrivains, elle a été remise en liberté fin décembre. Le jugement sera rendu en mars. Mais la litanie se poursuit, obsédante. Ashraf Fayad, Ibn al-Dib, Enome Yomes, Libby Feng, Breiten Breitenbach, Alvaro Mutis. Encore des poètes, palestiniens, qataris, camerounais, chinois, sud-africains, colombiens. Des poètes qui, pour leur prise de position, pour leur implication dans la vie citoyenne et pour leurs mots qui disent la réalité des tyrannies et des injustices, se retrouvent la cible de pouvoirs totalitaires. Prenez Ashraf Fayad, poète palestinien vivant en Arabie Saoudite. Il a été condamné à la peine de mort en 2015 par la justice saoudienne pour apostasie. Sa peine a été commuée en 800 coups de fouet et 8 ans de prison. Alors oui, Asli Erdogan. Elle encourt une peine de réclusion à perpétuité. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir dit la fin de la liberté d'expression en Turquie. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir raconté les bombardements des villes du Kurdistan turc par l'armée turque. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir décrit les massacres dont sont victimes les Kurdes. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir écrit des mots qui dénoncent un pouvoir dont le visage est, dit-elle, le fascisme d'aujourd'hui. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir écrit simplement.
Des peines volupteurs de lyre, épouchâtrées de polymnie, férolées de lune à confire, grand-duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète. Vos papiers, poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman, et j'ai bouffé l'itré, et je repousse du goulot, de la syntaxe, à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore que quick. Sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, cher à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur. Poète, vos papiers, poète, papier. Le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots à longueur de pelure. J'ai des idées au frais de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet, à l'auberge d'Ada la crotte est littéraire, le verre est libre enfin, et la rime en congé, on va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public décroquant, anonyme qui s'entribune, à la barbe des continents, poète, vos papiers, poète, documenti, littérature obscène, inventée à la nuit. Onanisme torché au papier de Hollande. Il y a partout Almistiche, mes amis. Et que m'importe alors Jean Genet, que tu bandes. la poétique libérée. C'est du bidon, poète, prends ton verre et fous-lui une trempe. Mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon et ta muse sera sapée comme une vente. Citoyens qui sentent la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette, graines qui poussent des gibets, châssis rouillés sous les démences, corridors pourris de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur falot des lundis, poète, vos papiers, poète, sale type. Que l'image soit robe et l'épithète au poil, la césure sournoise, certes, mais correcte. Tu peux vêtir ta muse ou la laisser à poil. L'important est ce que ton ventre lui injecte. Ces seins oblitérés par ton verbe arlequin gonfleront goulûment la voile aux devantures solidement gainées. Ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poivre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin. Poète, circulez, poète, circulez, poète, circulez.
À Pont-Salard, pendant l'hiver dernier, un groupe de jeunes migrants a été accueilli suite à la fermeture de la jungle de Calais. Le directeur du centre d'accueil, Laurent Garot, nous dresse un bilan de cet accueil.
Dissonance.
Laurent Garot,
sur Radio Sainte-Afrique.
Après ces 3 mois d'accueil d'enfants migrants dans ton centre, quel est le bilan que tu en tires?
Je suis un peu partagé, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on avait à faire précisément. On nous avait dit, vous êtes là, les jeunes vont être mis à l'abri. Votre mission, c'est de les accueillir, de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à des activités éducatives, une alimentation correcte, etc. Ça, évidemment, c'est relativement simple, donc ça, on a pu le faire. Après, on se dit toujours qu'on aurait pu faire plus. Peut-être qu'on aurait pu faire plus si on avait été mieux préparé à cet accueil-là. Peut-être que les situations un peu difficiles qu'on a vécues, encore une fois, si on avait été un peu mieux préparé, encore une fois, on aurait peut-être pu travailler différemment. Globalement, ça s'est quand même super bien passé. On a 25 jeunes qui sont repartis maintenant. Tous sont super contents du séjour qu'ils ont passé chez nous. Nous ont mille et une fois remercié pour ce qu'on avait fait pour eux, même si leur attente n'était pas d'avoir des activités éducatives. Leur attente a été unique, je l'ai déjà dit, c'était nous on veut partir en Angleterre. Et c'est ce qui nous a mis des fois en difficulté, puisqu'on n'avait pas de réponse nous à apporter. Après, humainement, ça a été hyper riche, on a vécu des moments de folie avec eux, de rigolade, avec des animations musicales notamment, où on sentait que les jeunes étaient enfin, au bout d'un mois, étaient redevenus des enfants, des adolescents, et plus des pseudo-majeurs, ou en tout cas des enfants qui vivaient comme ont vécu leur famille, des situations de conflit, des déplacements, voilà, il y a beaucoup de migrants adultes aussi. Là, c'est des enfants, et quand ils sont arrivés, on avait vraiment l'impression qu'on avait affaire plus à des adultes quasiment, ou en tout cas des jeunes hyper matures, qui avaient tellement vécu de choses difficiles, qu'ils avaient oublié, peut-être à un moment donné, qu'ils étaient quand même des enfants. Et le fait d'être posé à Pont-Salard, alors, à mon avis, a permis ça un peu, et puis aussi parce qu'on leur a proposé plein de choses qu'on propose à des adolescents le reste du temps. On a fait on a fait le travail qu'on sait faire avec des ados d'habitude. Ça, je pense, ça leur a permis de se poser vraiment. Ça a été un petit peu long, mais une fois qu'ils ont su que l'Angleterre c'était quasiment terminé pour eux, on a eu affaire à des adolescents avec des demandes d'adolescents, des attitudes d'adolescents avec non, je suis pas d'accord avec ça, ou j'aimerais bien ça, etc., etc. Et là, on s'est dit qu'on avait encore peut-être plus réussi notre coup, parce que, voilà, encore une fois, la mise à l'abri, c'était facile. On n'en a rien fait pour ça. Ils nous ont été amenés, on avait un logement, ils étaient à l'abri, ils étaient nourris, ils l'avaient logé, etc. La réussite, à mon avis, c'est celle-ci, c'est d'avoir pu permettre à ces jeunes de retrouver un peu un statut d'adolescent et non pas d'adultes qu'ils ne sont pas de toute façon. Et on le voit bien là, maintenant qu'ils sont partis, on est toujours en contact avec eux, et ils ont toujours des demandes qui sont des demandes d'ados. C'est voilà, est-ce que tu peux me trouver une batterie pour mon téléphone? Est-ce que tu peux. Voilà. On se dit que finalement, ce qu'on a entre guillemets souffert des fois d'une situation difficile par l'absence de réponse administrative, on est passé par-dessus ça et on leur a permis de, voilà, de retrouver une âme d'adolescent. Et je pense que ça, on peut être un peu fier de ça, je pense. Tout a été fait pour que les jeunes puissent avoir des réponses, la meilleure réponse possible face à la situation. Et ensuite, maintenant que les jeunes sont effectivement répartis en France ou dans l'Aveyron pour certains, entre Sainte-Afrique, Olemps et Rodez, on espère pour eux que la situation va évoluer positivement, que la demande d'asile va aboutir, parce que la demande c'est une chose, l'obtenir c'est souvent plus compliqué, et on sait bien que... pour l'instant, c'est assez difficile d'obtenir des papiers quand on est étranger. Mais voilà, j'ai encore confiance pour l'instant.
Merci beaucoup, Laurent.
Si la pluie en torrent tombe sur les genêts, si le brouillard descend à l'oreille des forêts, si ta route se perd, si tu es fatigué, si le vent de l'hiver souffle dans la vallée, étranger, étranger, viens frapper à notre porte. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens, si tu n'as pas trouvé de ruisseau en chemin, si l'eau n'a pas coulé dans le creux de tes mains, si la faim te poursuit comme une louve avide dans le froid et la nuit, si ta besace est vide, étranger, étranger, viens t'asseoir à notre table. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens, si tu veux raconter la douceur de chez toi, si ton cœur veut chanter des refrains de là-bas, ou si plus simplement tu ne veux que te taire et regarder longtemps le feu et sa lumière, étranger, étranger, reste encore pour la veillée. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens.
Comme un quart des Français en mai 2017, Dany, Jacques et Michel ont choisi de ne pas voter, un geste militant qu'ils expliquent. Dans le passage qui suit, ils réfutent l'idée souvent répandue que l'abstention profite au Front National. D'ailleurs, le résultat de la dernière élection leur donne raison. Dissonance, témoignage d'abstentionnistes avec Jacques, Dany et Michel.
Le risque du Front National, c'est pas moi qui le mets en place, c'est pas moi qui le développe, c'est pas moi en m'abstenant qui fait que le Front National se développe. Le Front National, il se développe à cause des politiques qui ont été faites jusqu'à maintenant, de droite et de gauche. Et c'est à cause du chômage, c'est à cause de plein d'autres éléments. C'est pas moi, en m'abstenant, qui développe le Front National. Et après, bon, Enfin, il me semble que ce serait donner trop de chiffres et de pourcentages et de choses comme ça. Mais il est très facile de faire des recherches et de voir que le Front National, son premier, sa bête noire, c'est l'abstention. Et que quand les gens votent massivement, c'est là que le Front National est élu. Chaque fois que le Front National a gagné, le taux d'abstention était plus bas que d'habitude. Donc moi, personnellement, en m'abstenant, je n'ai vraiment aucun problème avec la montée du Front National. C'est pas moi qui le fais, pas du tout, du tout. Voilà. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis tranquille avec ça. Les gens en pensent ce qu'ils veulent.
Et ceux qui font le lit du FN, ce ne sont pas les abstentionnistes, ce sont tous les gens qui ont présidé jusqu'à présent. C'est eux, sciemment en plus, pour certains, pour faire perdre des voix à l'autre, pour en gagner de l'autre côté. Et donc, c'est pas les abstentionnistes qui font le lit du FN, non. C'est les politiques qu'ils ont menées. Et on veut en plus essayer de nous culpabiliser.
En parlant de Marine Le Pen, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que quand on nous dit « mais si vous n'allez pas voter, vous faites le jeu du Front National », c'est insupportable d'entendre ça. Alors moi, j'ai des gens que j'aime bien qui le disent, qui me l'ont eu dit, mais non, c'est pas là que ça se passe. Il faut quand même penser que si le Front National réussit ses percées, c'est à cause des gouvernements successifs, des partis politiques successifs qui ne font que mentir aux gens en permanence, en leur promettant monts et merveilles, que bien sûr, ils ne réalisent jamais. Et donc les gens sont une grande partie déçus et vont voter pour une candidate dont on se demande d'ailleurs quelle crédibilité ils peuvent lui donner, mais visiblement ça a l'air de marcher, c'est une espèce d'écœurement, de dégoût contre tout le monde. Et elle se sert de ça, c'est l'écœurement contre tout le monde, elle est très forte là-dessus. Voilà, donc non, j'irai pas voter, non.
Je vais me faire l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu dis, par exemple, aux gens qui te disent « Oui, mais quand même, les élections, il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit, pour qu'on ait ce droit de voter. »
Et maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils aient revendiqué pour le droit de voter. Ils ont revendiqué pour pouvoir exprimer leurs opinions et qu'on en tienne compte. À partir du moment où on n'en tient pas compte, le jeu, eh ben, il est faussé.
Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, et je ne suis même pas sûr que ça soit vrai, ils disent donc qu'il y aurait beaucoup de gens qui sont morts dans l'histoire pour qu'on puisse obtenir le droit de vote. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Les gens te disent, ouais, tu te rends compte qu'il y en a qui sont morts pour ce que toi tu ne veux pas faire.
Oui, moi ça me fait rigoler. Bon, il se trouve que j'ai vu, peut-être tu mettras sur Internet un peu le lien avec cet historien qui en parle et qui dit que oui, il y a plein de gens qui meurent hélas pour des causes qui ne sont pas forcément les bonnes. Ou qui ne sont pas les nôtres. Et voilà, il est très très virulent dans son attaque là-dessus, en disant qu'après tout, il y a des nazis, des jeunes nazis qui croyaient, alors effectivement idéologiques, qui sont morts pour défendre Berlin assiégé. Est-ce qu'on peut, pour ça, se revendiquer de ce genre de choses? Je ne pense pas. De la même manière, il dit qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui sont morts pour demander le suffrage universel à une période où il venait d'apparaître pratiquement. Il n'était pas tout à fait, mais... Est-ce que ces gens-là, ils seraient d'accord avec nous, avec notre manière de faire le suffrage actuellement? Est-ce que le fait de mourir pour une cause en fait quelque chose de forcément intouchable? Non, malheureusement, non. Non, non, on est plein sur cette planète, on n'est pas d'accord avec plein de choses. Il y a des gens qui meurent et on le regrette parce qu'effectivement, on est d'accord avec eux, mais d'autres en face, c'est l'inverse, etc. Ce n'est pas là où ça se passe. C'est un faux débat, ça. Mmh. C'est un faux débat qui, en plus, est... oui, manichéen, hein, je trouve. Ouais. Parce que là, c'est un peu. Quand même, il y a des gens qui sont morts pour ce droit. Non, 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 c'est pas là que ça se passe. Ouais.
Et pour les printemps arabes où les gens espéraient pouvoir avoir des démocraties, pouvoir revoter, parce que pour revoter, c'était pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ben, je pense que c'est. Je pense qu'au départ, c'est pas ce que les gens demandent. C'est ce que certains leaders vont les amener. En espérant que ça va fonctionner pour être élu ensuite et récupérer la révolution. Voilà, c'est un peu ça.
Je crois que c'est pas les gens, c'est pas ce qu'ils demandaient. C'est pas, ils demandaient le droit à la parole, qu'ils n'avaient pas, le droit à la liberté de s'exprimer, le droit au travail aussi, parce que malheureusement, il y a peu de choses, le droit à manger correctement, à vivre correctement, à ce qu'on les respecte. Bon, si on leur propose, en leur disant, en leur faisant croire que c'est en allant voter que ça va aller mieux, ben, ils sont aussi naïfs que nous, c'est bien, quoi.
Voter, c'est abdiquer. Nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c'est renoncer à sa propre souveraineté. Qu'il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire muni d'une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. N'abdiquez donc pas, ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Ne votez pas. Au lieu de confier vos intérêts à d'autres, défendez-les vous-même. Au lieu de prendre des avocats pour proposer un mode d'action futur, agissez. Je vous salue de tout cœur, compagnon. Élisée Reclus.
Sûrement à cause de mon foie, que j'ai sensible au moindre émoi, à moins que ce soit ma vésicule ou bien encore mon trou du cul, je sens une pulsion colérique me détruire les zygomatiques. J'ai envie de dire des mots salinques pour éviter de tomber dingue devant le spectacle infâme de nos décideurs qui brament leur sermon moralisateur. Ayez confiance, n'ayez pas peur, soyez solidaires, dynamiques, ne fumez pas de hakik, entreprenez, investissez, soyez forts et déterminés. Et pour que l'État soit plus balèze, on vous piquera un peu plus de pèse. Nous pauvres cons, on baisse le front et ils organisent l'exclusion.
Entouré de ces pauvres cotons, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon.
Entier nous envie, le talent de nos dirigeants, dont le cervelat rabougri ne véhicule que du vent. L'idée de la pensée unique, c'est plus c'est nul, plus je te nique. C'est vous dire la force des concepts qui germent dans leur cerveau inepte. La République sans jeu de mots, ils la prennent pour une pute, lui font des papouilles, des turlutes, et se foutent de guérir ses maux. La trahison de leur promesse, ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe éructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons.
Entouré de ces portes coton, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon.
J'entends déjà le réquisitoire contre ma chanson dégueuloire. Mais la chanson n'est pas finite, faut récurer le fond de la marmite. Qui sait ce pencu sans façon qui salit les institutions? Qui sait ce malheureux baveux
et ses rimes à la mort moelle-neuve. Qui sait ce teigneux anarchique, au mauvais goût catastrophique, donnant des armes aux extrémistes, aux factieux, aux pourris, aux fascistes. À vrai dire, j'en ai rien à foire, du bon goût et des bonnes manières. Pourquoi nous laisser gouverner par des bouffons crétins fiefés? C'est de ne pas gueuler qu'on crève. On n'a qu'une vie et elle est brève. À cette pensée, mes yeux se mouillent. Faudrait plus qu'on nous casse les...
La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
Ils sont petits tas taiseux sur la table, à l'entrée. Bien alignés les uns à côté des autres, au cordeau, propres sur eux, dans la sobriété du graphisme qui les pare. Empilés les uns sur les autres, dans une rectitude républicaine, au carré, en bon ordre. Dans l'ordre doux du classement, qui dit tout de l'innocuité qu'il y a à s'en saisir. On les effleure du regard, on les caresse d'un souhait, on les tâte, on les palpe, on hésite. On en pince un, enfin, un parmi tous, entre le pouce et l'index, pour lui faire quitter le bel ordonnancement de la mise en scène d'accueil. On écarte le rideau de l'isoloir, on entre dans l'isoloir, on laisse retomber derrière soi le rideau de l'isoloir. On y est, dans la solitude du devoir citoyen. Avec un froissement, peut-être fébrile, peut-être fluide, on le plie et on le glisse dans l'enveloppe réglementaire. Bleu, l'enveloppe. C'est fait. On ouvre le rideau de l'isoloir, on sort de l'isoloir, on laisse retomber derrière soi le rideau de l'isoloir. On s'avance jusqu'aux tables derrière lesquelles patientent les assesseurs. On présente sa carte d'électeur. On s'approche du réceptacle qui lui est destiné. On tend sa main, peut-être tremblante, peut-être assurée, et on le lâche dans l'ouverture étroite. On le regarde voleter jusqu'au fond de l'urne où il se mêle aux autres qui y reposent déjà en un tas désordonné. « À voter !» clame l'assesseur. Et là, on se dit que ça risque vraiment d'être la merde.
Nouria a 25 ans. Elle vient des Asturies en Espagne et a un rêve, découvrir l'Europe, aller à la rencontre des autres en faisant fi des frontières. Elle a raconté sur nos ondes son parcours de jeune volontaire européen.
Dissonance.
Les jeunes volontaires européens.
Avec Nouria Fanjoul.
Sur Radio Centrafrique.
D'accord, ton destin, tu le construiras, tu le bâtiras en Europe et pas forcément en Espagne.
Oui, exactement.
Et pourquoi ?
Bon, j'ai l'Espagne, c'est mon pays, mais j'ai envie de découvrir des autres pays, il faut sortir, et je peux toujours revenir, j'y reviens tous les ans, il me manque un peu, mais c'est l'envie qui est plus grande.
D'accord. Quand tu es à l'étranger, tu cherches à rencontrer des gens du pays, mais est-ce que tu cherches aussi à rencontrer des jeunes espagnols?
Non, je cherche à rencontrer des gens du pays. Je suis plus intéressée sur eux, mais bon, j'aime bien parler avec les Espagnols, mais c'est pour ça que je voyage, pour rencontrer des personnes avec d'une culture différente. Quand je voyage, quand j'étais en Hongrie, j'avais besoin, j'avais envie de rencontrer des gens de différents pays. alors que j'ai trouvé des Espagnols qui ont resté toujours ensemble avec des autres Espagnols. Et c'est pour ça que je n'ai pas connu beaucoup d'Espagnols. J'ai toujours resté avec des gens des autres pays. Même si je parle en espagnol, ma langue maternelle, j'ai toujours été avec des autres. Et j'ai beaucoup d'amis mexicains, colombiens, argentins, un peu de partout l'Amérique du Sud. Il y en a beaucoup en Hongrie et je trouve qu'ils sont très intéressants parce qu'ils restent aussi ensemble, mais ils sont plus ouverts à des autres cultures. On partage la même langue, mais avec quelques différences, et c'était très intéressant. Et on a beaucoup de chance parce que normalement, pour voyager dans d'autres pays, en Amérique ou en Asie ou en Afrique, il faut avoir toujours un visa. Et c'est pour ça qu'on a de la chance, parce qu'ici on n'a pas de frontières, on n'a pas besoin de payer en plus avec notre carnet d'identité. On peut voyager très facilement et pas cher.
Vous êtes un petit peu à contre-temps, à une époque où l'Angleterre sort de l'Europe, où les Écossais menacent de sortir, et où ici des candidats aux élections ont comme programme le Frexit. Vous, vous êtes en train d'essayer de construire l'Europe de demain, justement.
Oui, exactement. C'est dommage qu'on a ces problèmes maintenant, mais l'Europe est unique, et je pense, c'est mon avis, mais bon, je pense qu'il faut la conserver parce que les étrangers qui sont venus des autres continents, ils sont toujours très surpris, ils aiment beaucoup notre philosophie et c'est dommage qu'on va la détruire un peu si on continue comme ça. Je suis fière d'être espagnole, mais je me considère européenne parce que j'ai connu beaucoup de gens des autres pays. J'ai pris des mots d'autres langues dans mon langage quotidien et aussi des choses que j'ai fait. J'ai parlé d'autres manières. J'ai changé beaucoup. À mon avis, d'une manière très positive, et je suis très heureuse.
Muchas gracias, Nuria.
De nada.
Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo, yo, yo.
citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Et si ta part te suffit pas, tu en prendras d'autres sans avoir à te battre. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices, plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour eux. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Partisan d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières.
Il a 91 ans, son grand-oncle était anarchiste, sa mère communiste. Il a côtoyé le jeune Albert Camus. Ces rencontres ont forgé sa personnalité de jeune homme de 91 ans, au regard lucide sur notre monde. Nous écoutons Jean Pouget. Dissonance avec Jean Pouget.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Jean, tu as une vie très très riche avec des graines d'anarchisme, après plongé dans un milieu de militants et de responsables communistes. Tu n'es jamais rentré au PC, tu es toujours resté à l'écart, mais tu es toujours à gauche. Quel regard tu portes sur aujourd'hui, sur l'actualité?
Ça serait classique de dire qu'il y a toujours eu beaucoup de déceptions dans la vie, mais l'histoire c'est pratiquement fait de déceptions. Hein, la guerre d'Algérie, telle qu'on pouvait l'imaginer au départ, ça s'est terminé le plus mal qu'on puisse imaginer. Hein, avec l'OAS qui a fait en quelque sorte que les gens ont fui, alors que ça pouvait être, je dis ça pouvait être, mais en général les choses ne tournent pas dans le bon sens. En général, pour l'humanité, c'est toujours dans le sens de la... Je ne sais pas quoi dire, mais que ce soit... Quand je pense à tout ce gâchis, parce que c'est du gâchis, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'état actuel des choses? Qu'on est paumé. Quand je dis paumé, je veux dire par là que... c'est un monde un peu à l'envers. Hein, une Amérique qui élit un Trump, une France où... La moitié, sinon la moitié, ben une bonne partie de la population s'apprête à amener au pouvoir. On ne sait même plus quoi dire, si c'est des fascistes, des nazis, c'est même pas ça. On ne sait pas. Et pourquoi ces gens choisissent ça, on ne sait pas non plus. Enfin, moi, je ne sais pas. Ils disent qu'ils en ont assez des politiques. J'avoue que enfin, c'est un peu succinct ce que je dis, parce que c'est vrai que on cherche à comprendre, quand on est un peu rationnel, comment, où est la rationalité dans tout ça, et c'est dur de le... Les gens sont prêts à... sont prêts à revenir à une situation où une guerre de 1914 pourrait de nouveau se déclencher, où le fascisme reviendrait au pouvoir. Ça n'a pas l'air d'effleurer les gens. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à 90 ans. Les gens qui ont 20 ans, on a de la difficulté à savoir comment ça a fonctionné dans leur tête, malgré le fait qu'ils ont, incontestablement plus de maturité intellectuelle, on pourrait le croire, que ceux de leurs ancêtres qui ne savaient pas lire ou n'étaient pas allés à l'école. Je ne sais pas, j'avoue que je suis paumé. Ben, y a une chose évidente, c'est que je trouve que j'ai eu une chance inouïe de vivre ce que j'ai vécu, de connaître autant de gens, de les avoir approchés. Je pense que peut-être que c'est une exception, je ne sais pas. Si j'en juge à travers ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivé en France, c'est-à-dire à l'âge où je n'avais pas encore 50 ans. J'ai l'impression que c'est les premières 50 ans où j'ai rencontré tout ça qui font que ça remplit ma vie. Mais après, j'ai encore rencontré des tas de gens intéressants. Mais ce n'est pas la même chose.
Et pour moi, Jean Pouget, Jean, tu es indissociable de Colette, ta compagne et ton épouse qui partagent ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot, juste avant de finir, pour finir?
J'oserais pas dire qu'elle est remarquable, puisque je l'ai remarqué. La première fois que, comme je l'ai expliqué, c'est amusant, mais c'est intéressant, c'est que on s'est rencontrés, donc, et on avait un cours tout de suite après, dans un grand amphi, et il se trouve que j'étais assis sur la rangée arrière, et avec un de mes amis, Jean-Louis Bureau, dont j'ai évoqué tout à l'heure le nom, et elle avait une curieuse manière de tenir son stylo, parce que c'est difficile à expliquer, mais ça me faisait un peu l'impression qu'elle tenait son stylo comme un manche, on tient un manche de marteau. Je veux dire, ça explique si rien sur son caractère, mais voilà. Donc ensuite, comme on a vécu quand même pratiquement toutes nos études ensemble, on a eu le même patron, René de Possel, qui lui a fait faire un certificat d'études supérieures nécessaire pour l'agrégation. Moi aussi, c'était différent. Il est vrai que avec Colette, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais on a toujours été ensemble et on ne s'est pas beaucoup caché de choses, je dois dire.
Et vous avez toujours plaisir, tous les deux, à revenir vous replonger, vous ressourcer ici, à Salle La Source.
Parce qu'elle a beaucoup travaillé dedans, moi aussi. Je me raccroche à cette maison, ça fait partie, ça fait partie de toute ma vie, je veux dire. La photo qui est là en atteste. Ouais.
Et sur la photo, pour les auditeurs, on voit...
La photo, c'est la photo de mon grand-père, avec moi, la photo de mon grand-oncle Émile Pouget, avec sa compagne, et voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Oh, je t'en prie.
Jean. En vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, rubrique Dissonance, vous trouverez des liens qui vous permettront de vous rendre sur les pages des émissions évoquées aujourd'hui et vous permettront de les écouter en entier et d'approfondir ces témoignages.
Cette émission sera rediffusée lundi 28 août à 20h et mercredi 30 août à 11h.
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.